Chapitre 5. La traversée de la rivière. Les Outriliens ont toujours tourné les habitants des six duchés en dérision, nous traitant d'esclaves de la terre et de fermiers bons seulement à gratouiller le sol. Eda, la déesse mère que l'on remercie pour les récoltes abondantes et les troupeaux qui vont croissant, est regardée avec dédain par les Outriliens qui la considèrent comme la déesse de gens rassis et sans caractère. Ils n'adorent pour leur part qu'elle, le dieu de la mer. Ce n'est pas une divinité à laquelle on rend grâce, mais par laquelle on prête serment. Et les seuls bienfaits qu'il répand sur ses fidèles prennent la forme de tempêtes et d'épreuves destinées à les endurcir. En cela, les Outriliens jugèrent bien mal les habitants des six duchés. Ils croyaient que des gens qui semaient du blé et élevaient des troupeaux ne seraient pas plus vaillants que des moutons. Ils se présentèrent chez nous en massacreurs et en destructeurs, et prirent le souci que nous avions les uns des autres pour de la faiblesse. Cet hiver-là, les petites gens de Serre, de Béarn, de Ripon et de Orfon, pêcheurs, bouviers, gardeuses d'oies et porchers, prirent la suite d'une guerre que nos nobles chamailleurs et nos armées dispersées menaient avec si peu d'efficacité, et la conduisirent à leur façon. Au bout d'un certain temps d'oppression, le bas peuple d'un pays se soulève et prend sa propre défense, que ce soit contre un ennemi étranger ou contre un seigneur injuste. Nos compagnons se levèrent en grommelant le lendemain matin, car il faisait froid et il fallait se hâter. Et ils évoquèrent entre eux des visions nostalgiques de gruaux bien chauds et de gâteaux cuits dans l'âtre. Pour nous réchauffer l'estomac, nous n'avions guère que de l'eau chaude. J'en remplis la casserole de caudron, retournai faire le plein de ma timbale, puis, la vue troublée par la migraine, je cherchais de l'écorce elfique dans mon paquetage. Mon rêve d'art de la nuit précédente m'avait laissé nauséeux et tremblant, et je défaillais à la simple idée de manger. Tout en buvant sa tisane à petite gorgée, Caudron m'observa pendant que je détachais des copeaux d'un bloc d'écorce et les faisais tomber dans ma timbale. Je dus ensuite ronger mon frein en attendant que la décoction eût infusé. Quand je la bus enfin, son affreuse amertume m'inonda la bouche, mais je sentis presque aussitôt ma migraine se calmer. D'une main griffue, Caudron me prit le bloc d'écorce des doigts. Elle l'examina, le renifla, puis « De l'écorce elfique !» s'exclama-t-elle. Elle me regarda d'un air horrifié. « Vous êtes bien jeune pour utiliser un produit aussi dangereux !» « Ça fait passer mes migraines, » répondis-je. Je pris une inspiration, puis bus le reste de la timbale d'un trait. Les pailles d'écorce du fond demeurèrent collées à ma langue. Je me forçai à les avaler. Puis j'essuyai le récipient et le replaçai dans mon paquetage. Je tendis la main et Caudron me rendit le morceau d'écorce, mais à contre-cœur et avec un regard étrange.
« Je n'ai jamais vu personne avaler cette tisane cul sec. Savez-vous à quoi on l'emploie en qu'elle cède ?»
On m'a dit qu'on en donnait aux galériens pour les revigorer.
« Ça revigore le corps et ça décourage l'esprit. Un homme qui a pris de l'écorce elfique perd aisément espoir et il est plus facile à manipuler. Ça émousse la douleur d'une migraine, mais aussi l'esprit. Je m'en méfierais à votre place. »
Je haussai les épaules. « J'en prends depuis des années, » répondis-je en rangeant le bloc d'écorce dans mes affaires.
« Raison de plus pour arrêter tout de suite, » fit-elle d'un ton acerbe.
Elle me donna son paquetage pour que je le place dans la carriole. La moitié de l'après-midi était écoulée quand Nick ordonna une halte. Puis, il partit en avant avec deux de ses hommes, tandis que les autres nous assuraient que tout allait bien. Nick se rendait à la rivière pour préparer le lieu de traversée. Je n'eus même pas besoin de regarder Œil de Nuit. Il s'éclipsa pour suivre Nick et ses hommes. Je me laissai aller contre le dossier de mon siège et serrai les bras sur ma poitrine dans l'espoir de me réchauffer.
« Hé, vous ! Rappelez votre chien !»
m'ordonna soudain un des hommes de Nick. Je me redressai et cherchai ostensiblement Œil de Nuit du regard.
« Il a dû sentir un lapin, c'est tout. Il va revenir, il me suit partout. « Rappelez-le tout de suite !»
fit l'homme d'un ton menaçant. Je me levai donc, montai sur le siège de la carriole et appelai Œil de Nuit, qui ne revint pas. Je haussai les épaules d'un air d'excuse et me rassis. Un des hommes continua de m'observer d'un air mauvais, mais je n'en avais cure. La journée avait été limpide et froide, et le vent mordant. Caudron avait conservé un silence pitoyable. Quant à moi, dormir à même le sol avait réveillé ma douleur à l'épaule, qui était maintenant continue. Et je préférais ne pas imaginer ce que la vieille femme endurait. J'essayais de penser seulement au fait que nous aurions bientôt franchi la rivière et que les montagnes ne seraient alors plus très loin. Une fois là-bas, je me sentirais peut-être enfin à l'abri du clan de Royal.
Certains des hommes tirent des cordes près de la rivière.
Je fermais les yeux et m'efforçais de voir par ce deuil de nuit. C'était difficile car ils regardaient les hommes eux-mêmes alors que je souhaitais voir la tâche à laquelle ils étaient attelés. Mais à l'instant où je comprenais qu'il se servait d'une corde pour entendre une autre, plus épaisse, en travers du courant, deux autres contrebandiers, dans un coude de la rivière d'en face, se mirent à dégager à gestes vigoureux un entassement de bois flotté. Un bac apparut bientôt, et les hommes entreprirent de casser à coups de hache la glace qui l'encroûtait.
« Réveillez-vous !»
me dit Caudron, d'un ton agacé, en m'enfonçant l'index dans les côtes. Je me redressai, et m'aperçus que l'autre chariot s'était déjà mis en branle. J'agitai les rênes de la jument, et nous suivîmes le mouvement. Nous empruntâmes brièvement la route de la rivière, avant de la quitter pour nous arrêter sur une portion de la rive dépourvue d'arbres. Près de l'eau se dressaient les restes de quelques masures que les flammes semblaient avoir détruites plusieurs années plus tôt. Il y avait aussi un appontement grossier en bois et en mortier, fort décrépit aujourd'hui. Sur l'autre berge, je distinguais le vieux bac à moitié immergé. Il était en partie couvert de glace, mais également d'herbes mortes. Manifestement, il n'avait pas flotté depuis de nombreuses saisons. Les cahutes édifiées non loin étaient en aussi triste état que celles de notre côté, car leur toit de chaume était complètement effondré. Derrière elles s'élevaient des collines aux pentes douces, garnies de conifères, et encore au-delà se dressaient dans le lointain majestueuses les cimes du royaume des montagnes. Une équipe avait attaché le bac et le halait vers nous, la proue pointée face au courant. L'embarcation était fermement accrochée à la corde de traction, mais cela n'empêchait pas la rivière impétueuse de s'acharner à la décrocher. Vu sa petite taille, un chariot et son attelage y tiendraient tout juste. En dehors d'un garde-fou de part et d'autre, ce n'était qu'un pont plat, sans rebord. Sur notre rive, les poneys de Nick et de ses hommes avaient été harnachés de façon à tirer la corde de remorque du bac, tandis qu'en face, patient, un attelage de mules reculait lentement vers la rivière. La proue de l'embarcation qui s'approchait ne cessait de monter et de descendre sous les coups de boutoir de l'eau. Le courant écumait et bouillonnait le long de ses flancs, et de temps en temps, une vague balayait le pont lorsque l'avant piquait. Nous n'arriverions pas sec de l'autre côté. Les pèlerins échangeaient des murmures angoissés, quand une voix d'homme s'éleva soudain parmi eux pour y mettre fin.
« Nous n'avons pas le choix, que je sache !»
lança-t-il. Tous se turent alors et regardèrent avec inquiétude le bac approché. Le chariot et l'attelage de Nick furent de la première traversée, peut-être afin de rendre courage aux pèlerins. Le bac fut tiré contre le vieil appontement et amarré par l'arrière. Je percevais la contrariété des bêtes, mais aussi leur habitude de la manœuvre. Nick lui-même les mena à bord et leur tint la tête pendant que deux de ses hommes faisaient tant bien que mal le tour du chariot pour l'élinguer au taquet, après quoi Nick débarqua et agita la main. Tandis que les deux hommes se plaçaient chacun près de la tête d'un des chevaux, l'attelage de mules de l'autre rive se mit à tirer sur la corde. Le bac commença de s'éloigner. Chargé, il enfonçait davantage qu'à l'aller, mais il dansait aussi beaucoup moins sur le courant. Par deux fois, la proue se dressa, puis retomba si bas que l'eau passa par-dessus. Mais nous observions la traversée. Arrivé de l'autre côté, l'embarcation fut amarrée la proue la première, le chariot détaché, et les hommes le conduisirent vers le sommet de la colline.
« Là, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. »
Nick affichait un sourire assuré, mais j'aurais été étonné qu'il crût à ses propres paroles. Deux hommes revinrent à bord du bac, visiblement peu réjouis, agrippés aux garde-fous. Ils essayaient avec force grimace d'échapper aux embruns de la rivière, ce qui ne les empêcha pas d'arriver trempés. L'un d'eux fit signe à Nick de venir à l'écart et se mit à lui parler d'un ton furieux. Mais notre guide lui tapa sur l'épaule en éclatant d'un rire sonore, comme si la situation lui paraissait du plus haut comique. Il tendit la main et l'autre y déposa une petite bourse. Il la soupesa d'un air appréciateur avant de l'accrocher à sa ceinture.
« Je tiens toujours parole !» dit-il aux deux hommes,
puis il revint vers notre groupe à grands pas. Les pèlerins devaient passer ensuite. Certains auraient voulu traverser à bord du chariot, mais Nick leur expliqua patiemment que plus la charge serait lourde, plus le bac enfoncerait dans l'eau. Il les fit embarquer et s'assura que chacun pouvait s'agripper efficacement aux garde-fous.
« Vous aussi !»
cria-t-il en faisant signe à Caudron et Astérie.
« Je traverserai avec ma carriole !»
répondit Caudron. Mais Nick secoua la tête.
« Votre jument ne va pas apprécier le voyage. Si elle s'affole en plein milieu, vous serez contente de ne pas être sur le bac avec elle, croyez-moi. Je sais ce que je fais. »
Il me jeta un coup d'œil.
« Tom, ça vous dérange de passer avec la jument? Vous avez l'air de savoir vous y prendre avec elle. »
J'acquiesçai de la tête.
« Eh bien voilà, Tom s'occupera de votre jument. Allez, embarquez maintenant. »
Caudron se renfrogna, mais dut reconnaître le bien fondé du raisonnement. Je l'aidai à descendre de la voiture, puis Astérie la prit par le bras et l'accompagna au bac. Nick monta derrière elle et s'adressa brièvement aux pèlerins pour leur dire de s'accrocher et de ne pas avoir peur. Trois de ses hommes embarquèrent et l'un d'eux insista pour tenir lui-même le plus petit des enfants.
« Je connais la traversée, » expliqua-t-il à la mère inquiète, « et je veillerai à ce que votre fille arrive de l'autre côté. Ne vous souciez que de vous-même. »
À ces mots, la petite fille se mit à pleurer. Et ses cris stridents restèrent audibles par-dessus le fracas de l'eau lorsque le bac s'éloigna. À côté de moi, Nick regarda l'embarcation prendre le large.
« Tout va bien se passer, »
dit-il en s'adressant autant à lui-même qu'à moi. Il se tourna vers moi avec un sourire complice.
« Eh bien, Tom, encore quelques voyages, et je porterai votre jolie babiole. »
J'acquiesçais sans répondre. J'avais donné ma parole, mais je ne m'en réjouissais pas. Malgré ses propos confiants, je l'entendis pousser un soupir de soulagement lorsque le bac accosta de l'autre côté. Les pèlerins débarquèrent en hâte, sans attendre que les hommes eussent fini de l'amarrer. Je regardais Astérie, aidé Caudron à descendre. Puis quelques compagnons de Nick les pressèrent de gravir la berge pour se mettre sous le couvert des arbres. Enfin, le bac revint vers nous avec deux hommes à bord et embarqua le chariot des pèlerins, accompagné de ses poneys. Les bêtes n'y mirent aucune bonne volonté, et il fallut qu'on leur mette un bandeau sur les yeux et que trois hommes les tirent pour les faire monter sur le bac. Une fois attachés, les chevaux continuèrent à s'agiter, à renifler et à encenser. Arrivé à l'autre rive, l'attelage n'eut pas besoin d'encouragement pour débarquer promptement le chariot. Après quoi, un homme prit les guides et fit gravir la colline au chariot qui disparut derrière le sommet. Les deux hommes qui revinrent cette fois-là connurent la pire traversée de toutes. Ils avaient accompli la moitié du trajet quand un arbre énorme apparut dans la rivière. Le courant le portait droit sur eux, et ses racines tordues évoquaient une main monstrueuse qui s'agitait sur l'eau. D'un cri, Nick excita nos poneys, et nous bondîmes tous pour les aider à tirer la corde, mais cela n'empêcha pas le tronc de heurter obliquement le bac. Les deux hommes hurlèrent car le choc les avait arrachés aux garde-fous, et l'un d'eux faillit même passer par-dessus bord. Il ne dut la vie sauve qu'à un espar auquel il s'accrocha avec la dernière énergie. Ils débarquèrent sur notre rive l'air furieux et le juron à la bouche, comme s'ils suspectaient l'accident de ne pas en être un. Nick fit amarrer le bac et vérifia personnellement tous les liens qui le rattachaient à la corde de traction. L'impact avait décelé un des garde-fous. Il secoua la tête et en avertit ses hommes tandis qu'il menait le dernier chariot à bord. La traversée ne fut pas plus éprouvante que les autres. Néanmoins, c'est avec quelque émoi que je l'observais, sachant que j'étais de la prochaine. Ça te dit un bain, œil de nuit ?
« Si la chasse est bonne de l'autre côté, ça en vaut le risque, »
répondit-il. Mais je sentis qu'il partageait mon inquiétude. Je m'efforçais de me calmer moi-même ainsi que la jument de Caudron, pendant que les hommes amarraient le bac à l'appontement. Puis je l'y menais en lui tenant des propos apaisants. Je l'assurais de mon mieux que tout irait bien, et elle parut me croire, car elle s'avança d'un pas tranquille sur les planches balafrées du pont, pendant que je la guidais lentement en lui expliquant ce que je faisais. Elle resta sans bouger pendant que je l'attachais à un anneau fixé dans le bois. Deux des hommes de Nick amarrèrent solidement le chariot à l'aide de cordes, puis Œil de Nuit sauta dans le bac et se coucha aussitôt, le ventre contre le pont, ses griffes enfoncées dans le bois. Il n'appréciait pas la voracité avec laquelle la rivière tirait sur le bac. Moi non plus, à vrai dire. Il vint se tapir près de moi, les pattes écartées.
« Vous, vous accompagnez Tom et le chariot !»
annonça Nick aux hommes dégoulinants qui avaient déjà effectué une traversée.
« Mes gars et moi, on se chargera de nos poneys au dernier voyage. Ne vous approchez pas de la jument au cas où elle se mettrait à ruer. »
Ils montèrent à bord d'un air circonspect, en jetant des regards presque aussi méfiants à Œil de Nuit qu'à la jument. Ils se rendirent à l'arrière et s'y tinrent. Œil de Nuit et moi demeurâmes à l'avant. J'espérais que nous serions à l'abri des coups de sabot. Au dernier moment, Nick déclara «
Je viens avec vous, finalement. »
Et il démarra le bac lui-même, avec un grand sourire et un salut de la main à l'adresse de ses hommes. L'attelage de mules de l'autre rive se mit en mouvement, et avec une embardée, nous nous dirigeâmes vers le milieu du courant. Être spectateur d'un événement n'est pas le vivre. La première vague d'embrun me fit hoqueter. Nous n'étions soudain plus que des jouets aux mains d'un gosse imprévisible. La rivière se précipitait autour de nous, tirait sur le bac, et s'évertuait à le décrocher avec des rugissements de rage. Le bruit furieux de l'eau était presque assourdissant. Le bac piqua brutalement du nez, et je m'agrippais fermement au garde-fou, alors qu'une vague balayait le pont en essayant de me saisir les chevilles. La seconde fois qu'un panache d'eau jaillit de la proue et s'abattit sur nous tous, la jument poussa un hennissement affolé. Je lâchai le garde-fou dans l'intention d'attraper sa tétière. Deux des hommes paraissaient avoir eu la même idée, car ils se dirigeaient vers l'avant en s'accrochant à la carriole. D'un geste de la main, je leur signalai de faire demi-tour. Puis je me retournai vers la jument. J'ignorerai toujours ce que l'homme comptait faire. Peut-être voulait-il m'assommer avec le pommeau de son poignard. Toujours est-il que j'aperçus un mouvement du coin de l'œil, pivotai et me trouvai face à lui à l'instant d'une nouvelle embardée du bac. L'homme me manqua et son élan l'envoya heurter la jument. La bête, déjà affolée, se laissa aller à un déchaînement de ruades et se mit à secouer violemment la tête, dont un coup me fit reculer en chancelant. J'avais presque retrouvé mon équilibre quand l'homme se jeta de nouveau sur moi. Derrière la carriole, Nick se battait avec un autre. D'un ton furieux, il cria quelque chose, où il était question de sa parole et de son honneur. Je me baissai pour échapper au coup de mon assaillant, quand par-dessus la proue jaillit une vague qui m'emporta jusqu'au milieu du bac. Je saisis au passage une roue de la carriole et m'y cramponnai en hoquetant. Je venais de dégainer à moitié mon épée quand une main m'agrippa par derrière. Mon premier adversaire se précipita vers moi, un sourire carnassier aux lèvres, la lame de son poignard en avant. Soudain, un éclair de fourrure mouillée passa près de moi. Œil de Nuit heurta l'homme en pleine poitrine et le jeta contre le garde-fou. J'entendis le craquement du montant de bois affaibli. Lentement, lentement, loup, homme et garde-fou tombèrent vers l'eau. Je me précipitai vers eux, entraînant mon second assaillant derrière moi. Comme il touchait la surface, je réussis à saisir au vol le montant fracassé et la queue d'Œil de Nuit, en sacrifiant pour cela mon épée. Je ne tenais le loup que par le bout de la queue, mais je ne desserrai pas ma prise. Sa tête réapparut au-dessus de l'eau, et il se mit à gratter frénétiquement le flanc du bac. Il trouva enfin un appui et commença de se hisser à bord. À cet instant, une botte s'abattit durement sur mon épaule. La douleur jusque-là sourde qui s'y nichait explosa. Le coup suivant me frappa le côté du crâne. Je vis mes doigts s'ouvrir. Œil de Nuit s'éloignait de moi en tournoyant, emporté par le courant. « Mon frère !» hurlai-je. La rivière engloutit mon cri. Puis une vague me heurta et m'emplit la bouche et le nez d'eau. Quand elle se fut évacuée du pont, j'essayai de me redresser, mais l'homme qui m'avait fait lâcher prise à coups de botte était agenouillé près de moi, et je sentais la pointe de son poignard sur ma gorge.
« Ne bouge pas et accroche-toi, »
me dit-il d'un ton menaçant. Il se tourna et cria à Nick.
« Je fais ça à ma façon !»
Je ne répondis pas. Je tendis mon esprit de toutes mes forces pour atteindre le loup. Le bac dansait sous moi, le flot de la rivière passait en rugissant, les vagues et les embruns me détrempaient. Froid, mouillé, de l'eau dans mon nez et dans ma gueule, je suffoquais. Je ne savais plus ce qui était de mes sensations et de celles d'Œil de Nuit, si même il était encore de ce monde. Le bac racla soudain l'appontement de l'autre rive. Les hommes entreprirent de me relever, mais maladroitement. Le premier ôta son poignard de ma gorge avant que son camarade eût assuré sa prise sur mes cheveux. Je me redressai brusquement et les pris à partie sans me soucier de ce qui pouvait m'arriver. Les chevaux affolés perçurent la haine et la rage que j'irradiais. Un homme s'approcha trop de la jument, et un sabot lui défonça les côtes. Cela en laissait deux, du moins, le croyais-je. D'un coup d'épaule, j'en précipitai un à la rivière, mais il réussit à se rattraper au bord du bac et à y rester agrippé tandis que j'étranglais son compagnon. Je lui serrai la gorge tout en lui tapant le crâne sur le pont quand les autres me tombèrent dessus. Cela ne dissimulait pas leur livrée brune et or. J'essayais de les pousser à me tuer, mais en vain. J'entendis des cris en haut de la colline, et il me sembla reconnaître la voix furieuse d'Astérie. Quelque temps après, je gisais ligoté sur la berge enneigée. Un homme montait la garde près de moi, l'épée au clair. J'ignorais si c'était une menace à mon encontre, ou s'il était chargé d'empêcher ses acolytes de me tuer. Il se tenait en cercle autour de moi et me regardait avec des yeux avides, telle une meute de loups qui vient d'abattre un cerf. Je tendis frénétiquement mon esprit sans me soucier de ce qu'il pouvait me faire. Quelque part, je sentis qu'Œil de Nuit luttait pour survivre, mais je le perdis peu à peu alors qu'il mettait toute son énergie à ne pas mourir. Nick fut brutalement jeté à mes côtés. Un de ses yeux commençait à enfler, et quand il me sourit, je vis que du sang teintait ses dents.
« Eh bien, nous voilà de l'autre côté de la rivière, Tom. Je vous avais dit que je vous y conduirais, et nous y sommes. Maintenant, je réclame votre boucle d'oreille, comme convenu. »
Mon garde lui donna un coup de pied dans les côtes.
« La ferme !»
gronda-t-il.
« Ce n'était pas l'accord !»
dit Nick, quand il put reprendre son souffle. Il regarda les hommes assemblés et chercha auquel s'adresser.
« J'avais un marché avec votre capitaine. » Je devais lui amener cet homme et en retour, il me donnait de l'or et le libre passage pour moi et les autres.
Le sergent éclata d'un rire mordant.
Bah, ce ne serait pas le premier marché que le capitaine Mark aurait passé avec un contrebandier. Ce qui est bizarre, c'est que ça ne nous a jamais rien rapporté, à nous autres, hein, les gars? De toute façon, le capitaine Mark, la rivière l'a emporté loin d'ici maintenant. Alors, je ne vois pas comment on saurait ce qu'il vous a promis. Il a toujours aimé faire le fanfaron, le Marc. Enfin, bon, il n'est plus là. Mais moi, je connais mes ordres, et c'est d'arrêter tous les contrebandiers et de les conduire à Œil de Lune. Je suis un bon soldat, moi. »
Se baissant, le sergent soulagea Nick de la bourse d'or des pèlerins et de la sienne propre. Nick se débattit et perdit un peu de sang dans l'affaire. Je ne l'observais que d'un œil. Il m'avait vendu aux gardes de Royal. Et comment avait-il su qui j'étais? Par mes confidences sur l'oreiller à Astérie, me dis-je avec amertume. J'avais fait confiance, et cela m'avait rapporté ce que cela me rapportait toujours. Je ne me tournais même pas pour regarder les gardes emmener Nick. Je n'avais qu'un seul ami fidèle, et il l'avait payé par ma stupidité, encore une fois. Les yeux au ciel, j'ouvris mon esprit aussi largement que possible, et le tendis de toutes mes forces. Je trouvais Œil de Nuit, quelque part. Ses griffes grattaient une berge raide et glacée. Son épaisse fourrure était gorgée d'eau, si alourdie qu'il avait du mal à garder la tête hors de l'eau. Il perdit prise, la rivière s'empara de nouveau de lui, et il recommença à tournoyer dans le courant. Les tourbillons l'aspirèrent, le maintinrent un moment sous l'eau, puis le rejetèrent soudain à la surface. L'air qu'il aspira à gorgée haute que tente était chargé d'embrun. Il n'avait plus de force.
« Accroche-toi »
commandai-je. « Ne te laisse pas aller !» Et le courant capricieux le précipita encore une fois contre une berge. Mais celle-ci était couverte d'un enchevêtrement de racines pendantes. Ses griffes s'y prirent, et il se hissa le long de la rive, en jouant des quatre pattes, tout en recrachant de l'eau et en aspirant de l'air par saccades hachées. Ses poumons se gonflaient et se vidaient comme des soufflets de forge.
« Sors, ébroue-toi !»
Il ne répondit pas, mais je le sentis qui allait son propre poids sur le sommet de la berge. Lentement, il gagna les broussailles. Il rampait comme un chiot nouveau-né sur le ventre. L'eau dégoulinait de ses poils et forma une mare tout autour de lui, là où il s'était arrêté. Qu'il avait froid. De la glace se formait déjà sur ses oreilles et son museau. Il se releva et tenta de s'ébrouer. Il tomba sur le flanc. Il se redressa une nouvelle fois en tremblant et s'écarta de la rivière, encore, de quelques pas titubants, Il s'ébroua de nouveau en faisant voler l'eau tout autour de lui. Ce geste l'allégea et lui redressa le poil en même temps. Il demeura sans bouger, la tête basse. Puis, il vomit de l'eau. « Trouve un abri. Roule-toi en boule et réchauffe-toi. » Il n'arrivait pas à penser clairement. L'étincelle de son être avait presque disparu. Il éternua violemment à plusieurs reprises, puis promena son regard autour de lui. « Là !» le pressai-je, « sous l'arbre !» Le poids de la neige avait courbé les frondaisons du conifère, presque à toucher le sol. En dessous se trouvait un petit creux, garni d'un épais tapis d'aiguilles. S'il s'y coulait et s'y roulait en boule, peut-être parviendrait-il à se réchauffer. « Vas-y !» lui dis-je, « tu peux y arriver, vas-y !»
J'ai l'impression que vous lui avez tapé dessus trop fort. Il a les yeux dans le vague. T'as vu ce que la femme a fait à Skef? Il saigne comme un porc. Mais il lui en a retourné une solide. Où est partie la vieille? Quelqu'un l'a retrouvée? Elle n'ira pas loin avec cette neige, t'inquiète pas. Réveille-le, et oblige-le à se lever. Mais, il ne bat même pas des paupières. Il respire à peine. M'en fous, conduis-le au sorcier d'art. Après, ça ne nous regarde plus.
Je sentis que les gardes me redressaient, puis qu'ils m'entraînaient sur la colline. Mais, sans prêter davantage attention à ce corps-là, je m'ébrouais avant de me glisser en rampant sous l'arbre. J'avais juste la place de m'y mettre en rond. La queue sur le museau, j'agitais les oreilles pour les débarrasser des gouttelettes qui y restaient. « Dors maintenant, tout va bien, dors !» Je lui fermais les yeux. Il frissonnait toujours, mais une chaleur hésitante renaissait en lui. Doucement, je le quittais. Je levai la tête et vis à nouveau par mes propres yeux. Je marchais sur une piste pentue, flanquée de deux grands gardes bougiens. Je n'eus pas besoin de regarder derrière moi pour savoir que d'autres nous suivaient. Devant nous, j'aperçus les chariots de Nick arrêtés à l'abri des arbres et ses hommes assis par terre, les mains liées dans le dos. Les pèlerins dégoulinants se serraient autour d'un feu, entourés de plusieurs gardes. Je ne vis ni Astérie ni Caudron. Une femme tenait son enfant contre elle et pleurait bruyamment sur son épaule. Le petit ne paraissait pas réagir. Un homme croisa mon regard, puis se détourna pour cracher au sol.
« C'est la faute du bâtard au vif si nous en sommes là !» dit-il tout haut. « Il déplaît à Aïda, il a souillé notre pèlerinage !»
On me conduisit à une tente d'aspect confortable, dressée à l'abri d'un bouquet de grands arbres. Sans ménagement, on me fit franchir les rabats et on me jeta à genoux sur une peau de mouton épaisse, étendue sur un plancher de bois. Pendant qu'un des gardes me tenait par les cheveux, le sergent annonça
« Le voici, messire, le loup a eu le capitaine Marc, mais on a eu le loup !»
D'un large brasero émanait une chaleur réconfortante. Il y avait bien des jours que je n'avais pas mis les pieds dans un lieu où régnait une température aussi douillette, au point que j'en restais presque hébété. Ronce, en revanche, ne partageait pas mon avis. Installé dans un fauteuil en bois de l'autre côté du brasero, les jambes tendues vers le feu, il portait une robe à capuchon et plusieurs épaisseurs de fourrure, comme s'il n'avait que ses vêtements pour le protéger du froid nocturne. Il avait toujours eu une large carrure, mais aujourd'hui, il était corpulent. Il portait les cheveux bouclés, à l'imitation de Royal, et ses yeux sombres brillaient d'un éclat irrité.
« Comment se fait-il que tu ne sois pas mort ?»
me lança-t-il. Il n'existait pas de bonne réponse à cette question. Je me contentais de le regarder. L'œil inexpressif, les remparts mentaux dressés. Il devint subitement cramoisi, et ses joues parurent se gonfler de colère. Il adressa un regard venimeux au sergent, et d'une voix tendue.
« Rendez-moi compte clairement !»
Puis, avant que l'autre pût obéir,
« Vous avez laissé le loup s'échapper ?»« Non, messire, il a attaqué le capitaine. Ils sont tombés ensemble dans la rivière, messire, et ils ont été emportés. Avec un courant aussi rapide et une eau aussi froide, ils n'avaient aucune chance de s'en tirer. Mais j'ai envoyé quelques hommes en aval voir s'ils trouvaient le corps du capitaine. Il me faut aussi celui du loup si la rivière le rejette. Prévenez vos hommes. Oui, messire. Avez-vous attrapé le contrebandier, ce Nick, ou bien s'est-il enfui, lui aussi?
Le ton de Ronce dégoulinait de sarcasme.
Non, messire. On tient le contrebandier et ses hommes. On tient aussi ceux qui voyageaient avec lui, mais ils se sont mieux défendus qu'on ne s'y attendait. Certains ont essayé de se carapater dans les bois, mais on les a coincés. D'après eux, ce sont des pèlerins qui se rendaient au sanctuaire d'Eda dans les montagnes. Ça ne me regarde nullement. Quelle importance, la raison pour laquelle on enfreint la loi du roi, du moment qu'on l'enfreint. Avez-vous récupéré l'or que le capitaine avait donné au contrebandier ?
Le sergent prit l'air surpris.
« Non, messire. De l'or à un contrebandier ? Je n'ai rien vu qui ressemble à ça. Peut-être que le capitaine Marc est tombé avec à la rivière, ou alors il ne l'avait pas donné à l'homme ?»«
Je ne suis pas un imbécile. J'en sais bien davantage sur ce qui se passe que vous ne le croyez.
Retrouvez l'or, tout l'or, et rapportez-le ici. Avez-vous capturé tous les contrebandiers ?»
Le sergent prit une inspiration et décida de dire la vérité.
Il y en avait quelques-uns sur l'autre rive avec les poneys quand on a pris Nick. Ils se sont enfuis à cheval avant qu'on...
N'y pensez plus.
Où est la comparse du bâtard ?
Le sergent le regarda d'un œil vide. Il ne devait pas connaître le terme.
N'avez-vous pas attrapé une ménestrelle ? Astérie !
Fit Ronce, acerbe. Le sergent eut l'air mal à l'aise.
Elle s'est débattue, messire, pendant que les hommes maîtrisaient le bâtard sur l'appontement. Elle a foncé sur un de ceux qui la tenaient, et elle lui a cassé le nez. Il a fallu un peu la brider pour la reprendre en main.
Est-elle vivante ? Le ton de Ronce ne laissait guère de doute sur le mépris que lui inspiraient leurs compétences. Le sergent rougit.
« Oui, messire, mais... »
D'un regard, Ronce le fit taire.
« Si votre capitaine était vivant à l'heure actuelle, il le regretterait. » Vous ne savez absolument pas présenter un rapport, ni dominer une situation. J'aurais dû être tenu au courant des événements minute par minute. La ménestrelle ne devait pas être témoin de ce qui se passait, mais capturée et isolée.
Et il fallait être idiot pour essayer de maîtriser un homme sur un bac au milieu d'une rivière déchaînée, alors qu'il suffisait d'attendre qu'il débarque.
Votre capitaine aurait alors eu une dizaine d'épées à sa disposition.
Quant au pot de vin payé au contrebandier, il me sera rendu, ou vous ne toucherez votre solde qu'une fois la somme remboursée.
Je ne suis pas un imbécile.
Il foudroya de l'œil tous les soldats présents.
Vous vous y êtes pris comme des sabraches. Vous n'avez aucune excuse.
Il pinça les lèvres, puis d'un ton cassant.
Sortez, tous.
Bien, messire. Messire, et le prisonnier?
Laissez-le ici. Placez deux hommes devant la tente. L'épée au clair. Je souhaite lui parler seul. » Le sergent s'inclina et s'éclipsa promptement. Ses hommes l'imitèrent. Je levai les yeux et soutins le regard de Ronce. J'avais les mains liées dans le dos, mais nul ne me maintenait plus à genoux. Je me relevai et toisai Ronce de tout mon haut. Il se laissa examiner sans ciller, et quand il parla, ce fut d'un ton calme, qui n'en rendait ses propos que plus menaçants. « Je te répète ce que j'ai dit au sergent. Je ne suis pas un imbécile. Je ne doute pas que tu aies déjà un plan d'évasion, dont mon assassinat fait probablement partie. Sache que j'ai moi aussi un plan, dont ma survie fait partie. Je m'en vais te le dévoiler. C'est un plan tout simple, bâtard. J'ai toujours préféré la simplicité. Le voici. Si tu me causes le moindre désagrément, je te fais abattre. Comme tu l'as sans doute déduit, le roi royal désire qu'on t'amène à lui vivant. Si possible, ne crois pas que ça m'empêchera de te tuer si tu deviens gênant. Dans le cas où tu songerais à employer ton art, je te préviens que mon esprit est bien protégé, et si j'ai le plus léger soupçon que tu cherches à t'en servir, ton art s'opposera aux épées de mes gardes. Quant à ton vif, ma foi, il me semble que mes problèmes sont résolus de ce côté-là aussi. Cependant, au cas où ton loup réapparaîtrait, lui non plus n'est pas à l'épreuve d'un coup d'épée. Je gardai le silence.
M'as-tu compris ?
Je hochai la tête.
Tant mieux. Si tu ne te rebelles pas, tu seras bien traité, de même que tes compagnons. Mais si tu fais des difficultés, ils partageront tes privations. Ça aussi, tu l'as bien compris ?
Son regard exigeait une réponse. Je pris un ton aussi calme que le sien pour répondre. « Crois-tu vraiment que je me soucie que tu verses le sang de Nick, alors qu'il m'a livré à toi ?» Il sourit, et j'en eus froid dans le dos car ce sourire était autrefois celui d'un apprenti charpentier au caractère enjoué. Mais c'était un autre Ronce qui portait aujourd'hui sa dépouille.
« Tu es malin, bâtard, et tu l'as toujours été.
mais tu as le même point faible que ton père et le prétendant. Tu es persuadé que l'existence d'un seul de ces paysans vaut la tienne. Fais le moindre ennui, et ils le paieront tous de leur sang, jusqu'à la dernière goutte. Est-ce clair? Même Nick. Il avait raison. Je ne supportais pas d'imaginer les pèlerins payant pour mon audace. Et si je me montre coopératif? Demandai-je à mi-voix. Que leur arrivera-t-il? Mes préoccupations ridicules lui firent secouer la tête. 3 ans de servitude. Si j'étais moins clément, je leur ferais trancher une main, car ils ont clairement désobéi aux ordres du roi en tentant de franchir la frontière, et ils méritent la punition des traîtres. 10 ans pour les contrebandiers. Peu de ces derniers y survivraient, je le savais. Et la ménestrelle? J'ignore pourquoi, mais il répondit à ma question. Elle? Elle doit mourir. Tu le sais déjà. Elle connaissait ton identité, car Guillot l'avait interrogée à Lac Bleu. Pourtant, elle a décidé de t'aider au lieu de servir son roi. C'est une renégate. Ces paroles mirent le feu à ma colère. En m'aidant, c'est le vrai roi qu'elle sert, et quand vérité reviendra, tu sentiras le poids de son courroux. Nul ne pourra te protéger. Toi, ni le reste de ton prétendu clan. Ronce resta un instant à me dévisager. Je me ressaisis. On aurait dit un enfant qui en menace un autre des foudres de son grand frère. Mes propos étaient vains, et pire encore. Garde ! Ronce n'avait pas crié. Il avait à peine élevé la voix, mais les 2 hommes entrèrent aussitôt, l'épée pointée vers moi. Ronce fit comme s'il n'avait pas remarqué les armes. Amenez-nous la ménestrelle, et veillez à ce qu'elle ne se débatte pas cette fois-ci. Les gardes hésitèrent, et Ronce secoua la tête en soupirant. Allez, tous les 2, et envoyez-moi aussi votre sergent. Quand ils furent sortis, il me regarda et fit une grimace de dégoût. Tu vois ce qu'on me donne pour travailler. Œil de Lune a toujours été le dépotoir de l'armée des 6 duchés. Et je me retrouve avec des poltrons, des crétins, des mécontents et des comploteurs. Après quoi, je dois affronter le mécontentement de mon roi quand ils sabotent les missions qu'on leur confie. J'eus l'impression qu'il espérait vraiment ma sympathie. Mais, du coup, Royal t'a envoyé les rejoindre, répondis-je. Il me fit un sourire étrange. Tout comme le roi subtil y avait envoyé ton père et vérité. C'était exact. Je baissai les yeux sur l'épaisse toison qui couvrait le plancher et qui absorbait l'eau dont je dégoulinais. La chaleur du brasero s'infiltrant en moi me faisait frissonner par à-coups, comme si mon corps relâchait le froid qui s'y était introduit. Un instant, je tendis mon esprit. Mon loup dormait à présent, et il avait plus chaud que moi. Ronce prit une carafe sur une petite table près de son fauteuil et se servit une timbale de bouillon de bœuf fumant dont l'arôme me monta aux narines. Il en avala une gorgée avant de se radosser dans son fauteuil en soupirant. « Nous avons fait du chemin depuis notre première rencontre, n'est-ce pas ?» Il avait presque un ton de regret. Je hochai vaguement la tête. Ronce était quelqu'un de prudent, et il n'hésiterait certainement pas à mettre ses menaces à exécution. J'avais vu la forme de son art et constaté la façon dont Galen l'avait tordu, gauchi, pour en faire un instrument à l'usage de Royal. Il était fidèle à un petit prince plein de morgue. Cela, Galen l'avait gravé en lui, et il était incapable de séparer cette fidélité de son art. Il avait envie de pouvoir, et il adorait l'existence indolente que lui valait son talent. Ses bras n'étaient plus gonflés de muscles acquis par le travail. En revanche, son ventre tendait le tissu de sa tunique et ses bajoues pendaient lourdement. Il paraissait plus vieux que moi de 10 ans, mais il défendrait sa position contre tout ce qui pourrait la menacer, et il la défendrait férocement. Le sergent arriva le premier dans la tente, mais ses hommes se présentèrent peu après avec Astérie. Elle marchait entre eux et entra d'un air digne malgré son visage couvert d'échymose et ses lèvres enflées. Et c'est avec un calme glacé qu'elle se tint devant Ronce, sans le saluer. J'étais peut-être le seul à percevoir la fureur qu'elle contenait. Elle ne manifestait en tout cas nulle crainte. Elle était à côté de moi, et Ronce nous dévisagea l'un et l'autre. Puis, il pointa le doigt sur elle. « Ménestrel, vous savez que cet homme est fils de chevalerie ?» le bâtard au vif. » Astérie ne répondit pas. Ce n'était pas une question. À Lac Bleu, Guillot du clan de Galen, serviteur du roi royal, vous a proposé de l'or, de l'argent de bon aloi, si vous nous aidiez à capturer cet homme. Or, vous avez nié savoir où il se trouvait. Il se tut comme pour lui laisser l'occasion de s'exprimer. Elle garda le silence. « Pourtant, nous vous découvrons ici, en sa compagnie. » Il prit une profonde inspiration. « Et voici qu'il affirme qu'en l'aidant, vous servez vérité le prétendant, et me menace du courroux de vérité. Dites-moi, avant que je ne prenne des mesures, êtes-vous d'accord avec ses propos, ou bien parle-t-il indûment en votre nom ?» Il lui offrait une chance de s'en tirer. J'espérais qu'elle aurait le bon sens de la saisir. Je vis Astérie déglutir, puis sans me regarder, elle répondit d'une voix basse et maîtrisée. « Je n'ai besoin de personne pour parler en mon nom, monseigneur, et je ne sers personne non plus. Je ne sers pas Fitz-Chevalerie. » Elle s'interrompit, et j'éprouvai un sentiment étourdissant de soulagement. Mais alors elle prit son souffle et poursuivit. « Toutefois, si vérité loin voyant est vivant, c'est le roi légitime des six duchés, et sans doute ceux qui disent le contraire connaîtront le poids de sa colère, s'il revient. » Ronce poussa un soupir et secoua la tête d'un air navré. D'un geste, il appela un garde. « Toi, casse-lui un doigt, n'importe lequel !»« Je suis ménestrel !» s'exclama Astérie, horrifiée, en regardant Ronce avec une expression incrédule, comme tous ceux qui étaient présents sous la tente. Il n'était pas sans précédent de voir un ménestrel exécuté pour trahison. Mais tuer un ménestrel était une chose. Le mutiler en était une autre. « N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit ?» demanda Ronce comme l'homme hésitait.
« Messire, c'est une ménestrelle ?»
Le garde paraissait aux abois.
« Ça porte malheur de blesser un ménestrel. »
Ronce se tourna vers son sergent.
« Tu feras donner à cet homme 5 coups de fouet avant que je me retire pour la nuit. 5, n'oublie pas. Et je veux pouvoir compter les cinglures sur son dos. »
« Oui, messire, »
dit le sergent, une voix défaillante. Ronce revint au garde.
« Casse-lui un doigt, n'importe lequel. »
Il répéta l'ordre comme si rien ne s'était passé. L'homme s'approcha d'Astérie, hébété. Il allait obéir, et Ronce ne reviendrait pas sur ce qu'il avait ordonné. « Je te tuerai, » dis-je à Ronce avec sincérité. Il sourit d'un air serein. « Garde, tu casseras 2 doigts à la ménestrelle. N'importe lesquels. » Vivement, le sergent vint se placer derrière moi en tirant son poignard. Il posa la lame sur ma gorge et me contraignit à m'agenouiller. Je levai les yeux vers Astérie. Elle jeta vers moi un regard totalement vide, puis elle le détourna. Comme moi, elle avait les mains liées dans le dos. Les yeux braqués droit devant elle, sur la poitrine de Ronce, elle resta sans bouger, muette, blêmissant de seconde en seconde, jusqu'au moment où le garde la toucha. Elle émit un cri rauque quand il lui saisit les poignets, puis elle poussa un hurlement qui ne put couvrir les 2 petits craquements que firent ses doigts lorsque l'homme les rabattit en arrière.
« Montre-moi !» ordonna Ronce.
Comme s'il rendait Astérie responsable du geste qu'il avait été contraint de commettre, l'homme la poussa violemment, et elle tomba à plat ventre sur la peau de mouton, au pied de Ronce. Après le hurlement, elle n'avait plus poussé un cri. Les 2 derniers doigts de sa main gauche se dressaient de travers par rapport aux autres. Ronce les examina, puis hocha la tête satisfait.
« Emmène-la, et veille à ce qu'elle soit bien gardée. Ensuite, présente-toi à ton sergent. Quand il en aura fini avec toi, reviens me voir, »
dit-il d'un ton uni. Le garde saisit Astérie par le col, la redressa sans douceur et sortit en la poussant devant lui. Il paraissait à la fois en colère et sur le point de se trouver mal. Ronce fit un signe de la tête au sergent.
« Laisse-le se relever. »
Une fois debout, je le regardais de tout mon haut, tandis qu'il était obligé de lever les yeux vers moi. Cependant, il ne subsistait plus le moindre doute sur celui qui était le maître de la situation. Et c'est d'une voix très basse qu'il remarqua.
Tout à l'heure, tu disais m'avoir compris.
À présent, j'en suis sûr. Ton trajet, et celui de tes compagnons, jusqu'à Œil de Lune, peut être rapide et sans difficulté. Ou bien, il peut en être autrement. Ça ne dépend que de toi. Je ne répondis pas. Ce n'était pas nécessaire. Sur un signe de ronce, le deuxième garde me conduisit dans une autre tente occupée par quatre de ses camarades. Là, il me donna du pain, de la viande et une timbale d'eau. Docilement, je le laissai me lier les mains par devant, afin de me permettre de manger. Ensuite, il me montra du doigt une couverture dans un angle, et j'allai m'y installer comme un chien obéissant. Les soldats me rattachèrent les mains dans le dos et me lièrent les pieds. Ils alimentèrent le brasero toute la nuit et restèrent toujours au moins à deux pour me surveiller. Cela m'était égal. Je me retournais face à la paroi de la tente, fermais les yeux et allais, non au pays des songes, mais auprès de mon loup. Sa fourrure était presque entièrement sèche, mais il dormait toujours épuisé. Le froid et la brutalité de la rivière l'avaient laissé rompu. Je me consolais du mieux que je le pouvais. Œil de Nuit était vivant, et il dormait. Mais sur quelle rive ?